Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 septembre 2021. Alors, on vit une période assez étrange depuis 3 jours. Hein. On est dans une espèce de dépression, pas postpartum, mais post-Labor Day. Il se trouve que depuis que les Américains sont venus au bureau après la fête du travail, on sent des volumes qui déclinent encore, comme si c'était possible d'avoir moins de volume que ce qu'on avait eu durant le mois d'août. On sent une espèce de dépression générale. On était hyper, quasi euphorique la semaine dernière avec des records. On parlait du 54e record du S&P 500. Et là, de nouveau, troisième record, troisième journée de baisse consécutive sur les marchés. On n'a plus vu ça depuis des mois. Non, je plaisante. Il y a vraiment une espèce de dépression générale. Voilà, c'est ça. C'est un peu à l'image de la météo. Après 4 jours d'anticyclone, eh bien nous arrivons à une dépression qui vient sur le sud. Non, enfin bref, le temps est pas terrible et on se pose beaucoup de questions. Et il y a un truc qui revient beaucoup, c'est effectivement, il y a la peur sur la ville. Alors forcément, une vidéo qui s'intitule « Peur sur la ville », c'est un clin d'œil à la disparition de Jean-Paul Belmondo l'autre jour. Mais à côté de ça, on sent quand même une angoisse latente assez profonde sur les marchés depuis quelques jours. La grande question, c'est toujours la même chose. On a encore eu les publications du Benchbook hier qui disaient que la croissance dans laquelle nous étions depuis les stimulus du mois de mars l'année dernière, du mois de septembre, du mois d'octobre, du mois de décembre, du mois de janvier, eh bien cette croissance dans laquelle nous étions, elle est en train un tout petit peu de s'arrêter, de ralentir finalement, on est en train de se calmer, donc c'est un peu ces paraboles, vous avez une courbe ascendante, puis tout d'un coup ça commence à redescendre, et donc là on a un ralentissement de la croissance, c'est en tout cas ce que le Benchbook a montré hier dans la publication, donc ça c'est un des premiers stress, donc du coup vous avez tous les marchés qui se disent « Ouh, mais si tout d'un coup nous n'avions plus de croissance, et puis si tout d'un coup on n'avait plus de soutien économique, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Donc on tourne vraiment en rond autour de toutes ces thématiques de ralentissement économique, alors tout d'un coup on reparle du Covid, hein. Vous savez, le Covid, on l'avait complètement oublié, en tout cas dans le domaine des marchés financiers, on en parlait plus, c'était devenu un sujet qui était vraiment secondaire, les chiffres ne nous faisaient plus rien, on savait qu'on était immunisé contre toute relation par rapport au Covid-19, donc le marché était assez serein par rapport à ça, et aujourd'hui, tout d'un coup, on ramène le Covid, on dit que l'économie est en train de ralentir, les chiffres du Benchbook sont pas bons, les chiffres de l'emploi étaient dégueulasses vendredi passé, souvenez-vous-en, ça fait hyper longtemps, je sais, mais souvenez-vous-en quand même, donc on a toute cette thématique qui revient, et on sent que gentiment, on se met dans un mood un petit peu, je me renferme, et puis alors, à côté de ça, vous rajoutez que c'est la saison des gourous. Alors, la saison des gourous, c'est quoi? Eh bien, c'est les analystes fondamentaux, techniques, économistes, enfin, toutes les stars de la finance mondiale qui existent, qui viennent à tour de rôle profiter de l'occasion, de la fenêtre d'opportunité qu'on a entre le 1er septembre et le 31 octobre de dire « Attention, ça va baisser !» Donc là, on en a plein. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait un qui vienne dire « Oui, ça va baisser de temps, ça va baisser de temps, ça va baisser de temps. » Là, hier, le dernier en date, c'était Bank of America qui a annoncé hier que le marché allait baisser de 6% d'ici la fin de l'année. Alors, je dois dire que j'admire ces gars, hein, parce qu'ils sont capables de vous dire 6%, on va baisser de 6%. Pas 5,5, pas 6,3, pas 9,4, non, 6% de baisse d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on est très précis, on est très clair dans nos esprits, et c'est vrai qu'on a beaucoup de commentaires qui viennent comme ça, des commentaires négatifs, des commentaires prudents sur la suite de l'année. C'est vrai que c'est assez facile, parce que finalement, même si moi demain, je viens vous dire, écoutez, moi je pense que le marché va perdre, 38,9% d'ici les 14 jours qui viennent, eh bien j'ai 99,9% de chance de me gourer complètement, et d'avoir raté ma prévision. Et puis vous aurez oublié dans 3 semaines que je vous ai raconté n'importe quoi. Par contre, si par hasard j'ai raison, là du coup je deviens un génie, je deviens une star de la finance parce que j'ai vu que ça allait baisser de 38,9% dans les 14 jours qui venaient. Donc en gros, on en est là. Aujourd'hui, tout le monde vient donner son avis, on sent une certaine angoisse et puis les marchés, ça fait 3 jours qu'ils baissent et aujourd'hui on repart surtout du plafond de la dette. Alors je sais, je vous parle beaucoup ce matin de plein de trucs qui sont pas toujours très intéressants, mais on revient sur la thématique du plafond de la dette aux États-Unis. Alors en gros, le gouvernement américain a le droit de s'endetter jusqu'à un certain niveau de plafond. Et puis en dehors de ça, s'il n'arrive pas à aller en dessus, donc c'est-à-dire si le Congrès ne valide pas un endettement supplémentaire, eh bien du coup, on ne pourrait en théorie plus s'endetter. Si on peut plus s'endetter, on peut plus emprunter. Si on peut plus emprunter, le 10 ans ne vaut plus rien. En gros, ce serait le début du défaut du système américain. Alors vu le niveau de leur dette, on pouvait, ça fait quand même juste 25 ans qu'on dit ouais, mais un jour ils vont bien finir par faire défaut. Mais non, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a ce genre de situation, et ça se reproduit tous les ans, si, tous les ans, souvenez-vous, cherchez un petit peu dans le passé, vous verrez que sur les 4 ans de Trump, les 8 ans d'Obama, tous les ans, ils ont fait le sketch du plafond de la dette. Alors, comment ça se passe, le sketch du plafond de la dette? Eh bien, c'est assez simple. C'est assez simple parce qu'en fait, vous avez tout d'un coup quelqu'un qui vient à la tribune publique, et aujourd'hui, c'est Madame Yellen qui vient dire « Oh, attention, le plafond de la dette est en train de monter, je sais pas comment ça va se terminer, mais on va finir par avoir un défaut du système américain. » Et là, tout le monde se dit, oh, mon Dieu, comment va-t-on faire? Oh, quelle angoisse, c'est horrible. Et tout le monde commence à dire, c'est une catastrophe, les États-Unis vont finir en défaut parce qu'ils ne peuvent pas augmenter leur dette, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le 10 ans vaut vraiment ce qu'il vaut? Comment c'est possible que ça continue comme ça? Le rendement du 10 ans devrait monter, il ne peut pas être 1,3% si le plafond de la dette n'est pas accepté, donc ça veut dire qu'on va partir en défaut, il y a plein de gens qui vont perdre de l'argent dans leur portefeuille. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe! Ça, c'est la première étape de la série plafond de la dette. Alors, ils nous font ça chaque année, hein, pendant 10 semaines, ça dure, blablabla. On a une date d'échéance. Hein. Si à cette date d'échéance, on n'a pas réussi à relever le plafond, c'est la fin du monde. Alors, je vous rassure, durant les 14 ans passés, ça ne s'est jamais produit. Hein. À chaque fois qu'ils nous font le sketch, c'est toujours un peu la même chose. Hein. C'est comme si vous allez voir un comique en spectacle, on voyait 12 fois le même spectacle, au bout d'un moment, le même sketch vous fait beaucoup moins rire. Ben là, c'est pareil. Hein. C'est au bout de la 14e fois qu'on nous fait le coup du plafond de la dette. D'abord, on a compris comment ça se finit. Et puis, deux, ça fait beaucoup moins rire. Parce que les mêmes punchlines qu'on a d'habitude, eh ben, c'est pas aussi drôle et c'est pas aussi, il n'y a pas autant d'impact. Parce que vous savez comment ça se finit? Eh ben, ça se finit comme dans un James Bond. Vous savez, quand vous avez la bombe qui va exploser, puis vous avez le gros compteur avec les chiffres rouges, puis que ça met 0.0001, et puis quand ça fait clic, ben lui il appuie sur le bouton pour faire off, ou il a coupé le fil rouge ou le fil bleu, peu importe, et puis du coup ça s'arrête, et puis ben le plafond de la dette c'est pareil, parce que finalement, à la fin, c'est toujours les Américains qui gagnent, et puis il faut pas oublier non plus que les scénarios hollywoodiens, ça vient de chez eux, donc les trucs qui finissent bien à la fin, ils arrivent toujours à le faire. Donc on a un monstre sketch, ils vont nous prendre la tête là maintenant pendant les 3 prochaines semaines, jusqu'à leur échéance, je sais même pas quand c'est, parce que j'ai même pas envie de regarder. Et puis, à la fin de tout ça, vous aurez le Congrès qui, oh miracle, ils vont se mettre d'accord, ils vont rehausser le plafond de la dette. Et le gouvernement américain sera encore endetté un petit peu plus, mais on aura sauvé le monde. Mais du coup, le S&P devrait bien le prendre, et puis il finira encore au plus haut de l'année, comme l'annonce d'ailleurs l'UBS qui pense qu'on a encore une hausse de 3% facile jusqu'à la fin de l'année. Comme quoi, il n'y a pas tout le monde qui est négatif dans ce monde de brut aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer, aujourd'hui, l'ambiance, elle est pourrie, il n'y a pas grand-chose qui se passe, le temps est moche, il fait gris, les gens sont pas très motivés, on se pose beaucoup de questions par rapport à la croissance, et même en Europe, hein, on se dit, ah, mais peut-être que la croissance, elle va ralentir. Et en même temps, il y a un mec de la BCE qui a parlé hier, c'est le patron de la banque centrale autrichienne, qui a dit, ah, mais vous savez, nous, on va peut-être devoir ralentir nos soutiens pour ne pas laisser le marché s'emballer trop vite, pour ne pas avoir une inflation galopante. Donc, de côté, on panique sur la croissance. Et d'un côté, de l'autre côté, vous avez la BCE qui dit « Oui, mais nous, on va peut-être ralentir les soutiens économiques, lancer un tapering. » Donc vous vous dites « Mais franchement, pourquoi on a peur d'un ralentissement de la croissance si en fait la BCE nous dit qu'il y a trop de croissance ? Il y a un truc qui joue pas. » Enfin bref, on a une journée pourrie hier, l'ambiance est pourrie, les gens ont la trouille et on nous dit « En plus, vous savez quoi ? On est en septembre, c'est pas un bon mois pour la bourse le mois de septembre. Elle est facile celle-là. » Et bien du coup, les gens flippent un tout petit peu là-dessus. Alors rappelez-vous quand même que à chaque fois qu'on a eu ces périodes de 4 ou 5 jours où ça fait que baisser, eh bien vous avez toujours à un moment donné, on s'arrête. Et là, c'est la moyenne mobile des 50 jours. Ça fait 5, 6, 7 fois qu'on a ces 3-4% de baisse. 3-4%. Ah! Quel optimisme. Non, les 2,5% de baisse, on descend jusqu'à la moyenne mobile des 50 jours, qui aujourd'hui se trouve à 4425. Souvenez-vous, 4425, niveau d'achat. Et puis après, on rebondit, puis tout va bien, puis on va battre des records historiques, parce qu'on se souvient que, oui, mais il y a le stimulus, oui, puis la Fed ne nous laissera pas tomber, oui, puis il n'y aura pas de tapering. Alors aujourd'hui, par rapport au chiffre du Beigebook, forcément, il y en a un qui a dit, peut-être qu'ils vont devoir changer la date du tapering. Et on est reparti dans le même cinéma qu'on avait 3 jours en arrière. Donc vendredi dernier, on flippait pas, parce que finalement, les chiffres étaient tellement mauvais qu'on se disait, bah forcément, ils vont pas faire de tapering. Puis tout d'un coup, il y a un doute quand même dans le Beigebook, et je dis, ah, peut-être qu'ils vont le faire quand même. Comme vous le voyez, on est super fort pour changer d'avis. Hein. C'est plus des girouettes à ce niveau-là, c'est du drift en fait. On tourne en rond sur un circuit en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire, où je vais, qui suis-je dans quelle étagère. On est capable de tourner et de changer d'opinion très rapidement. Donc voilà, pour l'instant, le mood de la journée, il est gris. Pas encore noir foncé, mais il est gris. Les gens sont déprimés, l'ambiance est pourrie, et on se dit peut-être que cette fois on va vraiment baisser. D'ailleurs, si vous êtes abonné aux news de certains sites financiers, moi je suis bombardé de news. Est-ce que cette fois la correction a vraiment commencé? Oh, l'angoisse. On se croirait dans la 9e saison de Walking Dead. Donc voilà, plafond de la dette, angoisse sur la croissance, et puis on a un scénario pour avoir une correction massive de 1,6% pour aller chercher la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500. Qu'est-ce que je cause ce matin? C'est effarant, je sais plus comment je dois faire, faut que je m'arrête à un moment donné. Écoutez, il y a encore un dernier chapitre dont on doit parler aujourd'hui, parce que c'est le chapitre qui intéresse tout le monde, c'est la crypto. Alors la crypto, tout le monde a les yeux fixés sur Bitcoin en ce moment. Alors je suis pas un expert en crypto, vous le savez, et donc je vais certainement recevoir des messages comme quoi j'ai pas en parler parce que j'y connais rien, j'ai rien compris. Toujours est-il que quand je regarde les médias financiers, tout le monde se dit, le Bitcoin est tombé, il est en train de tester la moyenne mobile des 50 jours. On revient toujours à cette moyenne mobile des 50 jours, et des 200 jours. En plus, là, on a une espèce de croisement qui serait un golden cross sur le Bitcoin qui est en train de se construire. Il faudrait qu'on s'arrête sur la moyenne mobile des 50 jours qui passe autour des 44 000, $45 000 sur le Bitcoin. Et puis après, c'est un peu pile ou face. Soit on bondit ici, puis on va direct à 100, 250, 500 000. Vous choisissez votre target. Ça, c'est un peu chacun fait son do it yourself. Alors, soit on pète les 44 000 et puis là, c'est la fin du monde. C'est terminé. Tout va à zéro. Donc, c'est assez facile. Hein. C'est soit on fait un carton sur le Bitcoin, soit on fait pas un carton sur le Bitcoin et c'est la fin du monde. Je schématise un peu, mais c'est un petit peu ce qu'on nous vend aujourd'hui. Alors, notez bien que depuis que les futurs sont en baisse sur les marchés américains ce matin, eh bien, on a les crypto-monnaies qui repartent. Oui, parce que la valeur refuge aujourd'hui, c'est officiellement plus l'or. Parce qu'avec toute l'espèce de merde qui nous pèse sur la tête depuis 3 jours, eh bien, l'or, il a quand même trouvé le moyen de descendre en dessous des 1800, alors qu'à la base, c'est censé être une valeur refuge. Sympa. En tout cas, moi, tout ce que j'ai appris dans les écoles de bourse, là, depuis quelques temps, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc, le Bitcoin, valeur refuge ou pas valeur refuge, toujours est-il que ce matin, il n'était pas en super forme, mais quand je me suis levé à 4 heures, et puis là, tout d'un coup, ça remonte, ça a l'air un tout petit peu mieux. On dirait presque qu'il a tenu sa moyenne mobile des 200 jours et des 50 jours. De bleu. À propos de bleu, aujourd'hui c'est le jeune Genevois. Donc moi je suis Genevois, donc je suis au boulot alors que la plupart des gens n'y sont pas. Ici à Genève, après ailleurs, je sais pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est férié, c'est très très calme. Je vais quand même répondre à une question du jour qui a trait à On Running Shoes. Donc vous savez, les chaussures de Roger Federer, enfin la société suisse qui vient en IPO qui ces prochains temps. Et la personne me demande s'il y a moyen de réserver ou de toucher des actions On avant qu'elles soient cotées en bourse. Oui, parce qu'on aura tous envie d'en acheter, ça c'est une certitude. Par contre, la problématique qu'on aura derrière, c'est qu'on ne sait pas à quel prix ça va ouvrir par rapport au prix d'émission. Donc, quand vous êtes dans un processus d'IPO, la société vient se faire son processus et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un book building, c'est-à-dire quelque chose avant. Vous pouvez dire, oui, moi je veux en acheter pour 100 000, moi je veux en acheter pour 200 000. Et puis à la fin, quand tous les gens ont dit, moi je veux en acheter avant l'émission, eh bien, les gens qui s'occupent de la mise en bourse, les brokers, en général des Goldman, des Morgan Stanley, comme ça, des gens très honnêtes, très fers, qui jamais ne sortent en dehors des chantiers battus et qui ne donnent pas de préférence, tout le monde a la même chance, tout le monde est égal, enfin, ou presque. Nous sommes tous égaux, sauf que chez Goldman Sachs, ils sont plus égaux que les autres. Ça, c'est une grande phrase financière. Mais chose est-il que ces brokers-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre toutes les souscriptions et ils vont dire, OK, lui, il en voulait 100 000, on lui en donne 1 000. Lui, il en voulait 200 000, on lui en donne 300 000. C'est un bon client, alors on lui en donne un peu plus. On fait ce qu'on appelle l'allocation. Et donc, l'allocation, c'est le truc le moins fair que vous pouvez trouver dans les marchés financiers. Clair et net, c'est toujours un truc complètement aléatoire. Donc vous avez quasiment, si vous êtes un petit investisseur privé et que vous souscrivez à On Running Shoes avant l'IPO, vous avez à peu près autant de chances de choper du papier à l'émission que de gagner à l'euro million. Et si vous en touchez, en général, c'est que vous êtes alloué à 100% parce que personne d'autre en veut et puis le marché va s'écraser à l'ouverture. Ça ne devrait pas être le cas de On Running Shoes, donc j'ai envie de dire... Vous pouvez aller voir votre banque, vous pouvez souscrire à l'IPO, de montrer votre intention de dire « moi je suis prêt à en acheter jusqu'à 10 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs ». Votre banque va pouvoir prendre votre souscription, la donner au responsable de l'IPO, la société qui s'occupe de la mise en bourse de On Running, et à partir de là, vous aurez une chance peut-être de toucher quelque chose. Par contre, il ne faut pas vous faire trop d'illusions, vous aurez plus de chances de les acheter dans le marché après. Restera juste à voir à combien ça va ouvrir et quel est le prix que vous êtes prêt à payer. Je pense que si ça ouvre autour des prix d'émission, par là autour. Il faudra pas hésiter à en acheter sur le long terme. Ça, c'est un truc qui me plaît assez bien. La marque est super, elle est soutenue par quelqu'un qui est une icône sportive et qui a une réputation sans tache, jusqu'à maintenant en tous les cas. Et donc par rapport à ça, je pense que c'est quelque chose qui fait complètement du sens. Par contre, si ça ouvre du style 150% plus haut à l'ouverture, il faudra peut-être juste laisser le soufflet redescendre avant de courir derrière. Mais voilà, malheureusement, en tant que petit investisseur, c'est toujours beaucoup plus compliqué d'obtenir des, ce qu'on appelle des allocations sur des IPO, parce que, bah voilà, comme je le disais, on est tous égaux dans le marché financier, sauf qu'il y en a qui sont toujours un peu plus égaux que les autres. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui, donc je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous encourage à souscrire, enfin à vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse, comme d'habitude. Hein. Je vous rappelle qu'on est toujours en course pour aller chercher ces 10 000 abonnés sur la chaîne Swissquote Suisse. On a de la concurrence sur la chaîne Swissquote anglaise et sur la chaîne Swissquote allemande. Donc le but, c'est d'aller chercher ces 10 000. Donc, inscrivez-vous, parlez-en autour de vous, faites de la pub, faites du bruit, likez cette vidéo et puis revenez demain parce que demain c'est plus jeune Genevois, j'aurai fini de manger mes 4 tartes au pruneau que je suis en train de faire dans la cuisine et je vous retrouverai pour conclure cette semaine. Belle journée à tous, bye bye.